40 à Paris.
Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Et nous sommes de retour pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. Dans un instant, la libre antenne. Mais avant de passer au standard, je vous rappelle que lundi et mardi prochain, nous serons à Niamey, dans la capitale du Niger. Nous serons au centre culturel Oumaru Ganda pour deux émissions en public. Lundi, nous débattrons de la prochaine élection présidentielle, car pour la première fois depuis l'indépendance du Niger, un président sortant passera le pouvoir à un successeur élu. Reste à savoir, et c'est tout le débat que nous lancerons, si les conditions sont réunis pour un scrutin incontestable. Et puis le lendemain, le mardi, nous dresserons un état des lieux de la situation au Niger. On parlera économie, démocratie, développement, lutte contre le terrorisme, éducation, perspectives d'avenir pour la jeunesse. Les sujets ne manquent pas. Donc soyez nombreux, venez donc lundi et mardi à partir de 15h au centre culturel Oumaru Ganda. Et vous pourrez également assister aux enregistrements du débat africain d'Alain Focal. La libre antenne, 20 minutes donc pour commenter l'actualité de votre choix. C'est incontestablement le sujet qui vous a fait le plus réagir cette semaine dans l'émission. La mobilisation de l'opposition et d'une partie de la société civile guinéenne contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Les manifestations de lundi et mardi, émaillées de violence, ont fait au moins 9 morts. Bonjour Bala.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry, dans la capitale guinéenne, et vous ne soutenez pas justement ces appels à manifester.
Non, je ne soutiens pas du tout, M. Juan, parce que le 4 septembre passé, M. le Président de la République, son Excellence Professeur Alpha Condé, a instruit son Premier ministre, chef du gouvernement, a entamé un dialogue national exclusif à tous les acteurs sociopolitiques de la République de Guinée. Mais malheureusement, l'opposition et FDMC qui n'ont pas voulu répondre à cette invitation ont appelé la population à manifester depuis le lundi passé à la République de Guinée.
C'est-à-dire que vous ne comprenez pas la stratégie de l'opposition qui non seulement boycotte le dialogue proposé par le pouvoir, mais en plus appelle à manifester dans les rues et à travers l'ensemble du territoire guinéen. En même temps, l'opposition dit mais à quoi bon aller dialoguer avec le pouvoir si de toutes les façons la décision est prise? La décision est prise de modifier la constitution.
Aucune décision n'a été prise. C'est pourquoi son Excellence, M. le Président de la République, a instruit son Premier ministre à consulter toutes les couches sociales de notre pays. Donc, à travers cette consultation, M. le Premier ministre a déposé son rapport de 2 ou 3 semaines à son Excellence, M. le Président de la République.
D'accord, Bala.
Je voudrais attendre d'abord que son Excellence, M. le Président de la République...
J'entends bien, Bala, j'entends bien ce que vous dites. Visiblement, vous êtes un partisan du chef de l'État, vous avez le droit. Mais avant même la fin de ces consultations, Bala, à un moment donné, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître des faits, et des faits qui sont dont on a les preuves. Lorsque le président Alpha Condé, à New York, avant même la fin donc de ces consultations qui se déroulent dans son pays, dit aux Guinéens il va falloir se préparer à un référendum. Donc forcément, c'est que la décision a été prise avant même la fin des consultations.
Non, mais j'ai mal compris dans ce sens. À ce qui concerne d'abord cette modification des constitutions, d'abord ça va se passer par un référendum. Parce qu'il y a des anomalies qui sont dans l'ancienne constitution dont tout le monde le sait parfaitement, à voir l'opposition savent que oui, l'ancienne constitution est émaillée de beaucoup d'anomalies. Donc ce sont ces anomalies-là que nous allons corriger dans la nouvelle constitution.
Oui.
Donc si nous prenons la participation des Guinéens vivant à l'étranger...
Oui. On va pas revenir sur tout ce qu'il faudrait peut-être modifier ou pas dans l'actuelle constitution, mais ce qui surprend et ce qui suscite finalement la suspicion au sein de l'opposition, c'est que cette modification, elle intervienne finalement à un an de l'élection présidentielle. Pourquoi ne pas l'avoir fait l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans? Pourquoi avoir prêté serment 2 fois sur cette constitution si le président ne la trouve pas correcte? On va donner la parole à d'autres auditeurs. Le débat est toujours passionnant, évidemment, et vous êtes nombreux à souhaiter prendre la parole. Amadou, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous avez participé lundi aux manifestations.
Tout à fait.
Alors, allez-y, racontez-nous, vous aviez envie de prendre la parole.
J'étais le lundi dans la rue pour manifester contre un éventuel troisième mandat du président Condé. Et tout était calme le matin jusqu'à 11h, quand les forces de l'ordre ont commencé à gazer les gens. Et bon, c'était bon le début parce que c'était des gaz, mais quand les balles ont commencé à retentir, vraiment c'était sérieux.
Ouais. Mais alors vous-même, Amadou, vous avez dit oui, j'ai manifesté lundi contre un éventuel troisième mandat. Éventuel. Qu'est-ce qui vous dit qu'aujourd'hui le président Alpha Condé a envie de se maintenir au pouvoir?
Bon, c'était avant que le président Condé commence à New York pour appeler ses militants à se préparer à un référendum, c'est. Moi, je m'étais dit que le président ne s'était pas prononcé, même si les partisans du pouvoir avaient fait assez de manifestations de le pays partout pour promouvoir leur constitution. Je m'étais dit que ce n'était pas le moment. Mais le président lui-même s'est exprimé enfin pour dire aux Guinéens de se préparer à un référendum.
Et donc, à partir de ces propos tenus à New York, vous vous êtes dit, ça y est,
À partir de ce moment, ce ne sont plus des velléités, mais ce sont des envies clairement exprimées.
Ouais. Bon, bah écoutez, le débat en tout cas est loin d'être clos. Amadou Bala, merci d'avoir contribué à la réflexion. Vous aurez l'occasion évidemment dans les prochains jours ou prochaines semaines de revenir sur cette actualité qui ne vous laisse pas indifférent. 33 9 693 693 70. Bonjour Antoine.
Bonjour.
C'est la Libre Antenne. Vous souhaitez donc nous interpeller sur un sujet qui vous a marqué cette semaine. Vous souhaitez revenir sur le crash de l'avion cargo affrété par la présidence congolaise pour transporter notamment la voiture blindée utilisée par le président Tshisekedi lors de sa visite dans le Nord Kivu. Vous êtes à Kinshasa, Antoine. Je rappelle quand même que la carcasse de l'avion a finalement été découverte dans la province du Sankuru. Et vous aviez envie de prendre la parole ce matin, Antoine, car cet accident a donné lieu à de nombreuses rumeurs.
Absolument, puisque je me souviens que quand c'est arrivé, les premières explications c'était dirigé du côté du mauvais temps, mais il s'est fait que sur les réseaux sociaux, la plupart des spécialistes disent que le gros avion, les avions de ligne, les avions à réacteurs ont des problèmes avec les mauvais temps uniquement à l'atterrissage et au décollage. Or, ces avions à vitesse de croisière volent à plus de 30 000 pieds et que cet avion volait déjà depuis presque 59 minutes. Et donc, on a écarté, pour la plupart des internautes, on a écarté cette version-là. Alors,
donc vous ne croyez pas à la thèse des mauvaises conditions météo. Vous parliez justement, et je vous ai coupé la parole peut-être au mauvais moment, vous parlez de théorie du complot.
Mais bon, en attendant que la boîte noire livre ses secrets, c'est vrai qu'il y a lieu de se demander pourquoi cet avion a disparu subitement des radars après 59 minutes de vol, puisque l'avion était déjà à mi-parcours. On se pose beaucoup de questions sur ça, surtout que Tshisekedi était à l'est et qui venait de prononcer un discours qui a marqué les esprits. Et quand il déclarait qu'il était prêt à donner sa vie pour pacifier l'est,
qu'il était prêt à mourir voilà, pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. On a vu d'ailleurs en début de semaine ou fin de semaine dernière, parce que le crash a eu lieu vendredi, on a vu des militants de l'UDPS, donc du parti de Félix Tshisekedi, manifester à Limété, dans la capitale, à Kinshasa, non loin du siège du parti présidentiel, pour exiger toute la lumière. Et ces jeunes réclamaient la fin de la coalition entre Cash et FCC, donc la fin de la coalition entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Autrement dit, en substance, ces jeunes sont convaincus que ce crash a été monté par le reste de la coalition au pouvoir.
Oui, c'est ce qui ressort des avis de la majorité des militants et des partisans de Félix Tshisekedi, puisqu'ils se disent, ils posent la question tout de suite à qui profiterait le crime, puisque les militants estiment que Félix prend de plus en plus d'espace et qu'au finish, il va peut-être s'affranchir totalement et ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde.
D'accord. Antoine, merci. Je vous interromps un peu brusquement. Je regarde la pendule et quand je vois le nombre d'appels que nous avons ce matin au standard, je vois que le plus grand nombre d'auditeurs s'expriment. Merci beaucoup. Parlons maintenant du premier smartphone 100% africain. Le sujet a suscité plusieurs centaines de commentaires sur notre page Facebook de l'émission et on le comprend. L'usine de production a été inaugurée il y a quelques jours au Rwanda. C'est le groupe Mara. Le groupe Mara a été créé par un millionnaire ougandais qui s'appelle Ashish Takkar, et c'est donc lui qui est à l'origine de ce projet. Bonjour Florent.
Bonjour Juan.
Vous nous appelez de Bombay, vous êtes en Inde, et vous disiez au standard...
Ouais, je suis ivoirien, mais je vis en Inde. Ouais.
Vous êtes ivoirien, résident en Inde, et vous disiez au standard, ouais, comme l'ont dit quasiment tous les auditeurs qui ont réagi sur ce sujet, vous avez dit, j'achèterai ce téléphone 100% made in Africa.
Ouais. Bien entendu, Juan, faut dire que je pense que c'est une révolution dans le secteur des IT en Afrique. Et je pense que en tant qu'Africain, c'est à nous qu'il incombe de, je veux dire, faire déjà la promotion, la publicité de tout ce qui est produit africain. Et donc sans hésiter, sans même à savoir le contenu du smartphone, sans même à savoir la qualité et tout, moi je suis prêt à payer les 173 euros.
Alors, effectivement, 160. Alors, il y a deux modèles hein, qui sont produits actuellement. Il y a le Mara X et le Mara Z. Le Mara Z étant le plus performant, il va falloir débourser 173 euros. Vous êtes d'accord avec le président du groupe Mara qui dit que les Africains sont prêts aujourd'hui à payer un peu plus cher pour acheter un smartphone de qualité made in Africa?
Oui, bien entendu. Et je pense que en le disant, il touche en fait mon point de vue, parce que ben, comme je le disais tantôt, en fait c'est à nous qu'il appartient de faire ça. Et je pense que la majorité des jeunes Africains n'hésiteront pas à le faire, parce que on est dans un monde de compétitivité et il faudrait que voilà toutes les forces, je veux dire, quand je parle de force, je parle de la jeunesse des Africains, que toutes les forces s'unissent pour pouvoir permettre donc à ce domaine, qui est un domaine très florissant et qui est un domaine d'avenir, de pouvoir germer et puis, ben, je veux dire, grandir, s'enraciner en Afrique.
Oui. Et puis, il n'y a pas de raison qu'une marque africaine ne s'impose pas sur le marché africain, qui est potentiellement l'un des marchés les plus intéressants pour la téléphonie mobile. Donc, voilà, longue vie, évidemment, à ce premier smartphone 100% africain. Florent, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, puisqu'il est déjà... Quelle heure est-il à Bombay?
Il est 14h30.
Ah, 14h30, donc début d'après-midi. Merci d'écouter RFI. À bientôt, je l'espère. N'hésitez pas, rappelez-nous quand vous le souhaitez. Vous avez été plusieurs également à nous contacter pour réagir à la décision du gouvernement tchadien de réglementer la pratique de la DIA. Alors la DIA, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une compensation financière qui est versée par l'auteur d'un crime à la famille de la victime. Et le président Idriss Déby veut désormais encadrer cette pratique. Bonjour Mahamat.
Bonjour, monsieur Juan.
Vous nous appelez de N'Djamena, donc vous êtes dans la capitale tchadienne, et vous souhaitiez justement réagir à cette initiative du gouvernement.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord par rapport à cette décision du gouvernement de pouvoir encadrer la DIA. Et moi je pense que, comme l'a dit le chef de l'État lors de son discours à la conférence des gouverneurs à Abéché, la DIA, c'est tout à fait c'est une compensation, comme vous l'avez dit, mais ça ne peut pas abroger la sanction pénale. Donc, tout à fait, on peut payer la DIA, mais l'individu qui a commis le crime doit être sanctionné fortement du côté pénal. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord que la DIA soit appliquée, soit payée en même temps que...
Mais alors attendez, Mahamat, je comprends, vous dites, je suis d'accord pour qu'un criminel soit jugé par la justice, bon, là-dessus pas de problème, mais je suis d'accord pour continuer à payer la DIA. Mais pourquoi tout simplement ne pas mettre fin à cette coutume?
Oui, parce que, monsieur Juan, nous sommes au Tchad différentes communautés, plus de 200 ethnies. Et depuis toujours, les Tchadiens ont compris donc ce système de compensation. Et ça a aussi réglé certains problèmes, il faut le dire. Parce que, imaginez, parfois, quand même le criminel est jugé par la justice, tant que la DIA n'est pas payée, l'autre partie n'accepte pas. Donc parfois, il faut aussi voir ce côté-là.
Oui, alors, j'entends votre explication, elle est intéressante, Mahamat, mais j'ai également entendu cette semaine sur RFI le porte-parole de l'Ordre des avocats du Tchad qui dit, je cite ses propos, « La coutume est plus forte que la justice. Pour un assassinat, on vous impose 100 chameaux et que sais-je encore, il est temps que l'exécutif mette à la disposition des juges les ressources nécessaires pour faire échec à cette pratique de la DIA. »
Voilà, justement, c'est pour ça que je dis que cette initiative d'encadrer ce système de paiement de DIA est tout à fait normale. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a des communautés qui, tant qu'on ne paye pas la DIA, le problème continue. Donc par rapport à tous ces aspects, par rapport à tout ça, je pense qu'on peut maintenir le paiement de la DIA, on peut réglementer, on peut encadrer tout cela, mais en même temps, comme l'a insisté le chef de l'État, on doit aussi appliquer la justice pour que le criminel puisse être jugé et condamné par rapport à l'acte qui a été commis.
Merci beaucoup, Mahamat, de nous avoir interpellés sur ce sujet sensible, il faut le dire, au Tchad. Autre sujet moins sensible, mais qui a suscité énormément de réactions après, évidemment, la situation en Guinée, c'est la candidature de Guillaume Soro. C'est officiel depuis samedi. On en parlait en première partie d'émission avec Pierre Pinto qui répondait à un auditeur. L'ancien président de l'Assemblée nationale est donc candidat à la présidentielle de l'année prochaine. Bonjour Fofana.
Bonjour, monsieur Rouen.
Vous êtes à Abidjan. Et pour vous, je mélange les mots, il est temps que je parte en week-end. Cette candidature est scandaleuse.
Oui, elle est scandaleuse. J'estime qu'en plus qu'elle soit scandaleuse, elle est aussi une opportunité inutile. Vous voyez, l'inutilité de cette candidature réside dans l'essence même de nos conditions.
Alors attendez, excusez-moi, Fofana, je suis désolé, vraiment, il y a un problème de réseau téléphone, la liaison s'est considérablement dégradée entre le moment où le standard vous a rappelé et votre passage à l'antenne. On essaie de vous retrouver d'ici la fin de l'émission. Adama, bonjour.
Bonjour, Juan.
Je vous entends nettement mieux que Fofana. Comment avez-vous réagi en apprenant la candidature de Guillaume Soro?
Ben écoutez, c'est avec grand plaisir que j'ai appris cela. Et c'est avec une nette conviction que je dis que Guillaume Soro est l'homme idéal pour diriger la Côte d'Ivoire en 2020. Alors, pour 6 raisons.
Citez-moi les deux principales raisons, parce que 6, on n'a pas le temps.
D'accord, ok. Les deux principales raisons, le président Guillaume Soro a une très bonne connaissance de la vie politique ivoirienne. Et aussi, même aussi sur le plan international, au regard de son parcours, il fut un acteur majeur incontournable dans les négociations des différents accords qui ont abouti à des élections en 2010. Il a occupé toutes les hautes fonctions sous les présidents Gbagbo et Ouattara. Le président Guillaume Soro a été plébiscité par le président Gbagbo en le qualifiant de meilleur premier ministre en son temps. Le président Ouattara ne cesse même de faire des éloges du président Soro Guillaume malgré leurs divergences.
Ah bah ils sont fâchés maintenant, le président Ouattara et Guillaume Soro, ont divorcé.
Malgré ces divorces, vous n'allez pas entendre un discours de Ouattara où il parlera en mal de Soro.
Oui. En deux mots, Adama, vous êtes donc un partisan de Guillaume Soro. Concrètement et sérieusement, a-t-il vraiment des chances de remporter le scrutin présidentiel? Il n'a pas de parti aujourd'hui. Il est soutenu par des petits partis.
Il n'a pas de parti. Vous savez, Macron est passé en France sans avoir un parti. D'accord. C'est la population ivoirienne qui va élire, choisir le président Guillaume Soro.
Donc Guillaume Soro doit s'inspirer du parcours d'Emmanuel Macron. Là aussi, le débat est loin d'être clos. On aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Lundi, à ce micro, Nathalie Amar qui lancera le débat sur la nouvelle promesse du président Tshisekedi de sortir de la pauvreté 20 millions de Congolais dans les 5 prochaines années. Encore faut-il, évidemment, que l'État débloque le budget suffisant.
Le service Orange Monnaie, réception d'argent depuis la France, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous a proposé...